Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. À nous, la liberté est un essai de réflexion et de développement personnel coécrit par le psychiatre Christophe André, le philosophe Alexandre Jolien et le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Dans la continuité de trois amis en quête de sagesse, il adopte la forme de dialogue entre trois voix aux compétences et aux expériences distinctes. Son sujet central est la liberté intérieure, comprise non comme une indépendance absolue vis-à-vis du monde, mais comme la capacité de traverser les aléas de l'existence sans être constamment dominé par la peur, les impulsions, les habitudes mentales ou le regard social. Les auteurs organisent leur parcours en quatre mouvements: identifier les entraves, repérer les conditions favorables, consentir aux efforts nécessaires et examiner les effets de ce travail sur soi et sur la relation aux autres. L'ouvrage combine références philosophiques, psychologie, pratiques méditatives, anecdotes et exercices de fin de chapitre. Il vise moins à fournir une méthode uniforme qu'à inviter le lecteur à observer concrètement les mécanismes qui limitent sa marge de choix. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les barreaux invisibles qui limitent la liberté intérieure. Le livre part du constat que nombre de contraintes décisives ne sont ni juridiques ni matérielles, mais psychologiques et sociales. Peur, préjugés, rumination, colère, besoin de reconnaissance et dépendance peuvent orienter les conduites avant même que la personne ait délibéré. Les auteurs emploient ainsi images de barreaux invisibles pour désigner ce qui enferme sans toujours apparaître comme une prison. Cette perspective évite de réduire la liberté à la seule possibilité de faire ce que bon semble. Une personne peut multiplier les choix disponibles tout en restant captive de son anxiété, de ses automatismes ou de son besoin de validation. Le contexte contemporain est également interrogé: performance, consommation, compétition et surconnexion nourrissent des formes de conditionnement qui se présentent volontiers comme des promesses de liberté. Le propos ne consiste pas à condamner toute ambition, tout désir ou toute technologie, mais à examiner leur effet réel sur l'autonomie intérieure. Cette phase de diagnostic est essentielle dans la logique du livre. Il devient difficile de se libérer de ce qui demeure confus ou justifié comme une simple habitude. Les trois auteurs proposent donc une attention lucide aux situations ou une réaction émotionnelle. Une injonction sociale ou un comportement répétitif prend la place du discernement. Deuxièmement, acrasie et dépendance comme problème de volonté concrète. Une place importante est accordée à acrasie, terme philosophique qui désigne la faiblesse de la volonté, savoir ce qui serait préférable, vouloir parfois agir dans ce sens, mais ne pas parvenir à le faire. Ce phénomène donne au livre une portée très concrète car il relie les grandes questions de sagesse aux distractions, aux reports incessants et aux conduites compulsives du quotidien. Les auteurs ne présentent pas ce décalage entre intention et action comme une faute morale isolée. Ils invitent à en analyser les conditions: absence de projet clair, émotions perturbatrices, fatigue, peur de échouer, habitude de fuite ou recherche de soulagement immédiat. Les dépendances sont abordées dans le même esprit. Elles peuvent concerner des substances, mais aussi des liens affectifs, des comportements numériques ou le besoin de reconnaissance. Leur point commun est une perte de souplesse, ce qui devait aider ou procurer du plaisir devient une nécessité qui commande la personne. Le livre met donc en garde contre les réponses simplistes fondées sur la seule résolution. Comprendre le mécanisme permet de distinguer un désir choisi d'une compulsion et de créer des conditions plus favorables au changement. Cette analyse ne promet pas une maîtrise parfaite, mais elle réhabilite la possibilité de reprendre progressivement part à ses décisions. Troisièmement, une écologie de la liberté fondée sur les conditions de vie. La liberté intérieure ne dépend pas seulement de efforts individuels. Les auteurs développent une approche que le livre associe à une écologie de la liberté, les environnements physiques, relationnels, culturels et mentaux peuvent soutenir ou fragiliser la capacité à agir avec discernement. Cette idée corrige une vision individualiste du développement personnel selon laquelle chacun serait seul responsable de son équilibre. Un rythme de vie saturé, des sollicitations constantes, des relations qui entretiennent la comparaison ou des habitudes de consommation peuvent rendre plus difficile attention à soi et aux autres. Inversement, des lieux, des temps et des liens favorables facilitent le recul, la stabilité et la cohérence des choix. Le livre ne propose pas un retrait complet du monde. Il invite plutôt à sélectionner ce qui nourrit la qualité de présence et à réduire ce qui entretient agitation ou dispersion. La réflexion prend ici une dimension éthique et relationnelle. Se libérer ne signifie pas devenir autosuffisant, mais reconnaître l'interdépendance des conduites et des milieux. La bienveillance en soi ne se sépare pas de la considération envers autrui, puisque les relations constituent elles aussi un terrain de conditionnement ou de soutien. Cette écologie transforme donc la liberté en pratique située plutôt qu'un idéal abstrait. Quatrièmement, effort joyeux, entraînement de esprit et pratiques méditatives. les auteurs refusent l'idée selon laquelle le lâcher-prise dispenserait de tout travail. Ils soulignent que personne ne peut accomplir à la place du lecteur le travail de attention, de clarification et de transformation des habitudes. Cette exigence ne prend toutefois pas la forme d'un programme de performance supplémentaire. Le livre distingue implicitement effort contraint, nourri par la culpabilité ou la comparaison, et effort choisi, orienté vers une vie plus lucide et plus disponible. Cette seconde forme peut devenir joyeuse parce qu'elle repose sur le sens de la démarche plutôt que sur la quête d'une perfection. La méditation occupe une fonction importante dans cet entraînement. Elle est présentée comme une manière de se familiariser avec attention, la stabilité et la bienveillance, afin de ne pas suivre automatiquement chaque pensée ou émotion. Elle ne garantit ni absence de souffrance, ni contrôle total de l'esprit. Son intérêt réside dans une modification graduelle du rapport aux expériences intérieures. Les pratiques et outils placés à la fin des chapitres prolongent cette orientation. Ils cherchent à faire passer les réflexions du plan intellectuel à observation régulière et à action modeste. Le livre défend ainsi une discipline souple, faite de répétition, de patience et de retour après les écarts inévitables. En dernier lieu, une liberté qui élargit la relation aux autres, la finalité du parcours ne se limite pas à un apaisement privé. Les auteurs associent la liberté intérieure à une disponibilité accrue envers les autres et à une action plus éthique. Lorsqu'une personne est moins absorbée par ses peurs, son ressentiment, son image ou ses besoins immédiats, elle dispose de davantage d'espace pour écouter, coopérer et répondre avec justesse. Cette conception distingue le livre de certains discours sur autonomie qui assimilent liberté et affirmation illimitée de soi. Ici, le détachement des conditionnements égocentrés doit permettre une relation moins défensive au monde. La pluralité des auteurs sert particulièrement cette thèse. Christophe André apporte une sensibilité clinique aux émotions et à la vulnérabilité. Alexandre Jolien mobilise la philosophie et une expérience personnelle de la fragilité. Tandis que Mathieu Ricard inscrit la réflexion dans une pratique bouddhiste de compassion et de méditation. Leurs échanges ne prétendent pas effacer leurs différences, mais font apparaître des convergences autour de attention, de humilité et de bienveillance. Cette forme dialoguée limite le ton prescriptif, le lecteur rencontre des personnes qui parlent aussi de difficultés, de doutes et de pratiques imparfaites. La liberté apparaît alors comme un processus relationnel, jamais comme un statut définitivement acquis. En conclusion, à nous la liberté conviendra au lecteur qui cherche une réflexion accessible sur la peur, les dépendances, la procrastination, les émotions pénibles et la place de la méditation dans une vie ordinaire. Il peut être particulièrement utile à ceux qui apprécient de relier psychologie, philosophie pratique et spiritualité bouddhiste sans entrer dans un traité technique. Les outils de fin de chapitre offrent des points de passage vers une observation concrète de ses habitudes, tandis que les échanges entre auteurs favorisent une lecture lente et sélective plutôt qu'une application rigide. Le bénéfice intellectuel majeur réside dans une définition exigeante de la liberté. Elle ne se réduit ni au confort, ni à la spontanéité, ni à la multiplication des options. Elle suppose de reconnaître ce qui gouverne nos réactions et de cultiver les conditions d'une réponse plus consciente. Dans un domaine souvent dominé par des prescriptions rapides, le livre se distingue par la complémentarité de ces trois perspectives. Le psychiatre, le philosophe et le moine ne livrent pas une doctrine unique, mais confrontent des manières de comprendre et de travailler les mêmes obstacles. Cette diversité donne au texte une tonalité humaine nuancée et moins normative que bien des manuels de développement personnel. Certains lecteurs pourront trouver le volume dense ou la présence bouddhiste plus marquée que souhaité. Mais pour qui accepte une lecture progressive ? Ouvrage propose un cadre riche pour penser la liberté comme apprentissage durable, de attention, de bienveillance et de responsabilité relationnelle. Si vous souhaitez soutenir Christophe André, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.